Émile Richebourg, Les amours de village, Les violettes blanches. Chapitre 1. Il se tenait debout, immobile, sur la tête noire d'un rocher au flanc du coteau. Les mains croisées sur la poitrine, tête nue, ses cheveux tombant sur son cou, le front haut, le regard plongé dans l'immensité insondable, il ressemblait à une statue sur son piédestal. Des paysans passaient près de lui et le regardaient d'un air moqueur. Il ne les voyait point. C'était un tout jeune homme à la moustache naissante, son visage un peu pâle, mais aux traits accentués et énergiques, indiquait au moins 25 ans. Il n'en avait que 22. Dans sa physionomie animée, il y avait une grande expression de noblesse et de fierté. De son œil profond, un peu rêveur, s'échappait un regard rapide, incisif, brillant, ayant quelque chose d'inspiré. Il suffisait de le voir pour deviner en lui une de ces natures exceptionnelles que la pensée ou le tempérament entraîne vers les hautes aspirations. On était à la fin de juin. Le soleil descendait vers le couchant et allait toucher bientôt le sommet des hautes montagnes. Tout à coup, ses rayons pâlirent et il disparut derrière un épais nuage d'un gris sombre. Des masses de vapeurs noires, pourprées et jaunâtres, glissaient rapides dans le ciel en s'épaississant à l'horizon. L'atmosphère était lourde et la campagne silencieuse. Aucune feuille ne tremblait dans les arbres. Pas un souffle n'agitait les hautes herbes au-dessus des squelettes. S'élançaient les cigales et passaient les papillons, vol inquiet et indécis. À 2 mètres du sol, des milliers d'insectes microscopiques se livraient à une danse désordonnée et fantastique. Les bergers rassemblaient leurs troupeaux et faucheurs et fameux quittaient leur travail et se hâtaient de rentrer au bas-mot pour ne pas être surpris par l'orage. Bientôt, une sorte de frémissement courut dans les arbres, les feuillages parurent chuchoter, et au bout d'un instant, le vent souffla avec plus de force. En quelques minutes, il devint furieux. Les noirs corbeaux regagnaient la forêt voisine d'un vol pesant, en jetant dans l'air des criaillements plaintifs. Les fauvettes et les verdiers effarouchés se tapissaient au milieu des buissons. Des trombes de poussière se soulevaient sur les routes et étaient emportées par le tourbillon qui les lançait dans l'espace à une hauteur prodigieuse. Les peupliers, au grand panache vert, se ployaient à demi et se tordaient avec de sourds gémissements. Dans la forêt, le vent mugissait, faisant craquer les vieux chênes séculaires et les branches se brisaient avec un bruit sinistre. La plaine, couverte de blé presque mûr, ressemblait à une mer tourmentée, soulevant des flots dorés. Les épis se courbaient jusqu'à terre, puis se redressaient pour s'incliner encore. Soudain, l'éclair déchira la nuit et incendia le ciel. La foudre éclata en grondements terribles. La campagne était devenue déserte. Papillons, cigales et moucherons avaient disparu, balayé par un coup de vent. Seul, le jeune homme restait debout sur la roche. Il contemplait avec une sorte de ravissement l'horreur sublime du tableau que lui offrait la tempête. À le voir ainsi, le front rayonnant, le regard illuminé, les lèvres frémissantes, enveloppé d'éclairs, calme sous le fracas du tonnerre, on l'eût pris pour un démon railleur ou un dieu mythologique s'égayant au spectacle d'une convulsion de la nature. « Oh, que c'est beau, que c'est beau !» s'écriait-il avec exaltation. « Oh, voilà un des chefs-d'œuvre de Dieu, notre grand maître à tous !» De larges gouttes de pluie commençaient à tomber. Les éclairs continuaient à courir dans le ciel en zigzag, et les explosions de la foudre se succédaient sans intervalle. Le jeune homme s'élança du rocher sur la terre, et descendit le coteau pour entrer au village. Chapitre 2. Il marchait lentement, les deux mains derrière le dos et la tête légèrement inclinée. De temps à autre, il souriait. Il souriait à ses pensées, il souriait à son ambition, à son rêve. Lorsqu'il passa devant une des plus petites, mais des plus jolies maisons de Charville, les rideaux blancs d'une fenêtre s'écartèrent un peu, et une ravissante jeune fille de 17 ans, fraîche comme la rose du matin, montra sa tête gracieuse et le suivit des yeux aussi longtemps qu'elle put le voir. Quand il eut disparu, un soupir s'échappa de sa poitrine et elle se retira tristement. Deux larmes, semblables à deux gouttes de rosée, se suspendirent aux franges soyeuses de ses paupières. Absorbé dans sa rêverie, le jeune homme ne l'avait pas remarqué. Aucune de ses pensées n'était pour la jeune fille. Elle le savait, la chère petite, et elle souffrait beaucoup de se voir ainsi oubliée et dédaignée par celui qui avait été son ami dès l'enfance. Elle s'assit et prit machinalement sa broderie. Mais elle y travailla distraitement. Sa figure, tout à l'heure souriante, avait pris une expression presque douloureuse. Oh, c'est fini, se dit-elle. Il ne pense plus à moi. Mademoiselle Marguerite Velleroy m'a pris son amitié. Le jeune homme rentra chez son père. Enfin, te voilà, Philippe, dit le fermier. Qu'as-tu donc fait si longtemps dans les champs? Je regardais le ciel chargé d'électricité. J'admirais les effets de la tempête, le spectacle grandiose du ciel en feu. Oh, mon père, comme tout cela est beau! Mon pauvre ami, tu as des idées bien singulières. Dieu sait où elles te conduiront. Mais la gloire, mon père, répondit le jeune homme, dont le regard étincela. Le vieux fermier hocha la tête. Bonne, je pense que tu entends par là, bon garçon, dit-il. La gloire qu'on rêve n'est souvent qu'une fumée. Tu as de l'ambition, je t'en fais pas un crime. Mais cela me chagrine parce que je sens qu'il te perdra. Qu'elle te perdra, ton ambition. Prends garde, mon fils, prends garde. Mon père a cultivé la terre toute sa vie. Moi, j'ai suivi son exemple et je m'en trouve bien. Je suis heureux autant qu'on peut l'être. Philippe, prends aussi exemple sur ton frère aîné. Pourquoi ne fais-tu pas comme lui? Mais mon frère aime le travail des champs, père, et ma vocation m'en éloigne. Oui, au lieu de travailler seul avec lui pour soulager ton vieux père, tu t'amuses à faire des arbres, des chevaux, des vaches, des moutons avec un crayon. Il n'en est pas jusqu'à notre mère que tu aies dessiné avec son gros ventre et son feutre sur l'oreille. C'est tout ce qu'on dit de toi dans le pays. Oh non, mon père, mais je m'en doute un peu. Mais les mauvaises langues n'y manquent point. Nous n'avons jamais fait de mal à personne, cependant nous avons des ennemis, les envieux, les mal intentionnés. Eh bien, les uns disent que tu es un fainéant, que tu te crois trop grand seigneur pour travailler à la terre. Et les autres affirment que tu deviens fou. Bon, tous ces bavardages ne me font pas plaisir, Philippe. C'est à toi de les faire taire en te mettant sérieusement et courageusement, courageusement au travail. Mais mon père, j'ai déjà essayé bien des fois, je n'ai pas réussi. Ben, tu ne peux cependant pas rester à rien faire, mon garçon. C'est vrai, mon père. Vois-tu, Philippe, cet homme qui s'est arrêté chez nous l'année dernière, il t'a perdu. Cet homme est un mauvais génie. Vous vous trompez, mon père. L'année dernière, j'avais déjà les mêmes idées. Corot, le grand peintre de la nature, a vu mes essais. Il m'a encouragé, il m'a engagé à continuer mes études. Ne vous a-t-il pas dit à vous-même, mon père, que j'étais là un trésor? Ajouta le jeune homme en se touchant le front. Des bêtises, je crois pas à ces trésors-là. Mais pourquoi, mon père? Parce que les idées me font l'effet des coquelicots et des bleuets dans mes blés, répondit le vieillard en secouant la tête. C'est joli, ça brille et tire l'œil, mais ça rapporte rien. Mais je suis plein de confiance dans l'avenir, mon père. Avec de la volonté et du courage, j'arriverai. Le père se mit à siffler entre ses dents l'air Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Philippe continua. Depuis longtemps, je veux vous faire une demande, mon père. J'ai hésité beaucoup, mais puisqu'il faut que cela soit, je me décide à vous l'adresser aujourd'hui. Le fermier regarda son fils avec surprise et anxiété. Voyons, parle, lui dit-il. Mon père, je désire aller à Paris.
À Paris ?
S'écria le vieillard. Oui, mon père, je vous en prie, laissez-moi partir.
À Paris, toi seul, es-tu réellement fou, Philippe ?
Je ne le crois pas.
Mais malheureux, que ferais-tu dans cette ville immense qui est tout un monde ?
Je trouverai des maîtres, je travaillerai.
Folie, mais tu ne connais personne à Paris.
Mais vous oubliez le peintre illustre dont nous parlions il y a un instant.
Ah, monsieur Corot, il y a longtemps qu'il ne se souvient plus de toi.
Vous vous trompez, mon père, répondit le jeune homme en souriant. Et il tira de sa poche une lettre et la mit dans la main du vieillard. C'était une réponse du grand paysagiste à une lettre du jeune paysan. « Puisque vous ne vous effrayez pas devant les difficultés à vaincre, écrivait Corot, puisque la peinture, art trop souvent ingrat, est décidément votre vocation, venez à Paris. Vous trouverez en moi un maître et un ami. »
« Et tu crois que je vais te laisser partir ?» s'écria le vieillard après avoir lu. « Est-ce que je pourrais vivre, te sachant perdu dans ce Paris dont on dit tant de mal, ce gouffre béant, toujours prêt à recevoir de nouvelles victimes ?»«
Non, 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 tu ne quitteras pas ton vieux bonhomme de père.
Tu es au moins sûr qu'il t'aime, celui-là. »«
Oh oui, mon père, je sais que vous m'aimez. » Mais c'est au nom de cette affection que je vous supplie de ne pas me retenir à Charville. Mais je le sens, ici je ne ferai jamais rien. Il s'agit de mon avenir, de mon bonheur, mon père. Ne me refusez pas ce que je vous demande.
Le vieillard appuya sa tête dans ses mains et resta un instant livré à ses pensées.
Eh bien, mon père ?
Interrogea le jeune homme.
« Combien faudra-t-il que tu restes de temps à Paris ?» demanda le fermier en relevant la tête.
« 5 ou 6 ans, mon père. »«
Et quand veux-tu me quitter ?»«
Mais aussitôt que vous me permettrez, mon père, » répondit le jeune homme.
Son visage était rayonnant.
« Nous en parlerons demain, » reprit le fermier. « Mais avec quoi vivras-tu à Paris ?»
Oh, les 600 francs de rente qui me viennent de ma mère me suffiront, je pense.
Tu penses, reprit le père en souriant. À tes 600 francs, j'en ajouterai 600 autres, et tu verras si t'en as beaucoup de reste. Mais c'est tout ce que je pourrais faire pour toi.
Philippe se jeta au cou de son père et l'embrassa avec effusion.
Chapitre 3. 3 jours se sont écoulés. Philippe Barineau est prêt à partir pour Paris. C'est bien décidé. Le lendemain, il doit dire adieu à son vieux père. Celui-ci n'a pu résister. La confiance de son fils l'a ému et il s'est laissé convaincre. Il lui semble aussi que l'avenir est plein de promesses. Fort de son courage, le jeune homme ne redoute rien, pas même l'inconnu. Cette chose terrible qui arrête souvent les plus hardis. Pour le moment, il n'a que ses illusions, elles lui suffisent. Les illusions sont comme l'espoir, une partie du bonheur. Elles aident à vivre. Que de gens elles ont soutenu au milieu des luttes de la vie. Que de gens elles ont sauvé du désespoir. La pensée de Philippe Barineau s'élançait vers un monde nouveau. Et il voulait suivre sa pensée. Allait-il courir à la conquête d'une chimère ? Non ! Il voyait les obstacles se briser devant lui et ses efforts couronnés par le succès. Il avait rêvé de se faire un nom dans les arts. À force de travail, il voulait se frayer un chemin à travers les épines et les ronces qui défendent l'entrée du temple de la gloire. Alors ce nom, cette gloire acquise en combattant et la fortune qui vient après, il voulait mettre tout cela aux pieds de Mademoiselle Marguerite Velleroy. Marguerite était le mobile de son ambition. Entre elle et lui, il y avait inégalité de fortune et d'éducation. Marguerite était une demoiselle élégante, pleine de distinction et d'un grand air. Lui, un pauvre paysan, à peine dégrossi par les leçons du maître d'école. Il s'agissait de rapprocher les distances qui les séparaient. La tâche était ardue, mais non impossible. Philippe l'avait pensé. Avec sa nature ardente, sa volonté puissante, il sentait assez de force en lui pour ne pas s'arrêter en chemin. « Oui, se disait-il, je veux me rendre digne d'elle. Il faut que je m'élève assez haut pour la mériter. » Marguerite était fille unique. M. Velleroy, un ancien avoué de Paris retiré des affaires, possédait une belle fortune. Depuis 2 ans, il est devenu le propriétaire du château de Charville, qu'il habitait une partie de l'année. Philippe Barineau avait souvent rencontré la jolie Marguerite. La curiosité le fit même admettre au château. On avait voulu voir ses dessins. Il s'empressa de saisir l'occasion qui lui était offerte de causer avec Mademoiselle Velleroy. Depuis 1 an, il l'aimait. Et il n'avait point songé, quand il a été temps encore, à se mettre en garde contre ce sentiment qui devait lui faire éprouver une grande déception. Tout le monde au village savait que Philippe Barineau allait tenter de faire fortune à Paris. Les uns blâmaient le père, les autres se moquaient du fils. Mais il y avait unanimité pour dire que M. Philippe, n'ayant jamais rien fait de bon dans le pays, ne réussirait pas à faire mieux à Paris. Heureusement, les bonnes gens de Charville ne connaissaient pas toutes les ambitions du jeune homme. Certes, s'ils eussent soupçonné qu'il avait la pensée de demander un jour en mariage Mademoiselle Marguerite Velleroy, la méchanceté aurait eu beau jeu. Les rieurs n'eussent pas eu assez de sarcasme pour le punir d'une aussi ridicule prétention. Mais ce que les habitants de Charville ignoraient, Marguerite l'avait deviné. Philippe ne fut pas assez maître de lui pour cacher à la jeune fille le trouble et l'admiration qu'elle faisait naître en lui. Son émotion, ses regards, sa voix tremblante lorsqu'il lui adressait la parole l'avaient trahi. À la suite de cette découverte, Mademoiselle Velleroy rit, tellement la chose lui parut surprenante. Mais elle était coquette, elle aimait un peu trop qu'on rendît hommage à sa beauté. Elle ne se montra point indignée, elle fut même indulgente. Sans le vouloir, sans doute, par son indulgence même, elle encouragea le jeune paysan à poursuivre son rêve. Dans la journée, Philippe Barineau s'habilla et se rendit au château. Il voulait saluer M. Velleroy avant son départ et voir une dernière fois Mademoiselle Marguerite. Mais ce n'était pas seulement une visite de politesse qu'il allait faire. Il avait rassemblé toutes ses forces pour faire à Marguerite un aveu qui jusqu'alors était toujours resté sur ses lèvres. Il désirait, il espérait obtenir un mot d'espoir, une promesse. M. Velleroy était sorti. Mademoiselle Marguerite faisait un tour de promenade dans le parc. Philippe hésita un instant, se demandant s'il devait attendre leur retour au château. Mais il était trop impatient pour cela. Il descendit dans le parc afin d'aller à la rencontre de la jeune fille. Il prit une large allée ombragée de charmes aux branches d'or entrelacées et taillées en berceaux. L'air était imprégné des parfums des chèvrefeuilles, des acacias, des sureaux et des jasmins, auxquels se mêlaient les odeurs pénétrantes de la fenaison. Les grives et les merles couraient à travers les taillis, et les oiseaux chanteurs, cachés dans les feuillages, envoyaient à Dieu, comme une action de grâce, les trilles harmonieuses de leurs plus joyeuses chansons. Au bout d'un instant, le jeune paysan aperçut Marguerite marchant dans une allée qui se croisait avec celle dans laquelle il se trouvait. La jeune fille n'était pas seule. Elle donnait le bras à un grand jeune homme, très élégant, que Philippe ne connaissait point. Il éprouva une vive contrariété, et par un sentiment irréfléchi de timidité ou de crainte, il s'élança hors de l'allée et se cacha derrière un bouquet d'arbustes. Marguerite et son compagnon vinrent s'asseoir sur un banc à quelques pas de lui. Il paraissait de fort joyeuse humeur, car ils riaient tous les deux. « Mais ce que vous venez de me dire, ma chère cousine, dit le jeune homme élégant, est tout à fait une pastorale à la manière de M. de Florian. »« Moins Estelle, cependant, répondit Marguerite. « Certainement, nous ne sommes plus au bon vieux temps où les princesses épousaient les bergers. Et quel âge a-t-il, ce jeune pastoureau ?»« 22 ans, je crois. »« L'âge d'un héros d'idylle, avec de gros joues bouffies, bien rouges, et d'énormes mains dures, rouges aussi, » reprit le jeune homme en riant. « Non, vous vous trompez, mon cher cousin. Il ne ressemble nullement à votre portrait. » Il a le visage pâle, il porte ses cheveux longs, tombant sur le cou, à la mode bretonne, et le travail de la terre n'a jamais durci ses mains. Je puis même ajouter qu'il ne manque pas d'une certaine distinction. Mais alors, c'est pas un paysan? Non, ce n'est pas non plus un prince déguisé, mais nous ne sommes plus au bon vieux temps dont vous parliez tout à l'heure. Expliquez-moi donc cette énigme. Eh bien, mon pastoureau, comme vous l'appelez, se croit un être privilégié. Le métier de son père lui répugne. Il a du goût pour le dessin. Oh, il crayonne même assez bien ce qu'il a sous les yeux, et il s'imagine qu'il est artiste. J'ai appris ce matin qu'il se disposait à partir pour Paris, où il pense devenir un peintre célèbre. Oh, je comprends, c'est un fou. Moi, c'est ce qu'on dit à Charville. Et vous, ma cousine, est-ce votre opinion? Je ne puis pas en avoir une autre. Qui dit artiste dit aussi poète, reprit le jeune homme. Vous a-t-il pas adressé quelques madrigales? Mais y pensez-vous, mon cousin? S'écria Marguerite avec un geste de dignité froissée. Croyez-vous que je lui aurais permis de prendre vis-à-vis de moi une liberté aussi inconvenante? Certes, je l'eusse bien vite renvoyé à ses moutons. Ça dégage, l'aventure est fort drôle et mérite d'être racontée. À vos amis, n'est-ce pas, pour me rendre ridicule? Oh non, rassurez-vous, je ne dirai rien. Ce serait peu généreux, je ne vous le pardonnerai pas. Et comment se nomme-t-il, ce nouveau némorin?
Philippe Varino.
Philippe Varino, répéta le cousin. « Oh, je voudrais bien voir ce garçon-là !» Il avait à peine achevé ses paroles lorsque Philippe, bondissant au milieu de l'allée, se dressa devant lui, blême de colère, le regard plein d'éclairs. Le jeune paysan avait tout entendu. Marguerite laissa échapper un cri d'effroi et cacha sa tête dans ses mains. « Vous désirez voir Philippe Varino ?» dit celui-ci d'une voix éclatante. « Il est devant vous, regardez-le !» Le cousin, aussi effrayé que la jeune fille, ne trouva pas un mot à répondre. « Mademoiselle, reprit Philippe en se tournant vers Mademoiselle Velleroy, c'est bien involontairement que je surpris vos paroles. Mais je remercie le hasard qui m'a fait connaître votre pensée. Vous avez raison, mademoiselle, je suis un insensé, un pauvre fou. » Peut-être n'auriez pas dû le dire si haut, si j'étais généreux et plus digne de vous. Bon, je ne vous fais pas de reproche. Je dois au contraire vous remercier de m'avoir ouvert les yeux. Là, le son est un peu dur, mais j'espère pouvoir en profiter. Permettez-moi pourtant de vous dire, mademoiselle, continua-t-il, en vous renouvelant l'assurance de mon profond respect, que je ne croyais pas vous avoir autorisé, par ma conduite, à me couvrir de ridicule. Votre dignité, il me semble, n'est pas assez soucieuse de celle des autres. En quittant Charville demain, j'aurai une illusion de moi, mais ce n'est point la perte de mes espérances. Maintenant, mademoiselle, je vous dis adieu. Adieu. Il s'éloigna rapidement et sortit du parc. Une douleur inconnue lui brisait le cœur.
Chapitre 4. Tout en marchant, il se disait « Mademoiselle Marguerite Velleroy m'a fait sentir bien cruellement le peu que je suis. C'est pour elle que je voulais devenir quelque chose, et elle me méprise.
comme tout le monde, elle me traite de fou. Quand nul ne croit à mon avenir, quand j'ai l'âme triste, le cœur brisé, mais d'où vient donc que je ne me sens point découragé, que ma volonté reste la même? Ah, c'est qu'il y a en moi une autre chose que les rêves d'un ambitieux vulgaire. Pour tous les grands artistes, l'art est un culte. Bien, il sera le mien. Ne pensons plus à Mademoiselle Villeroy. D'autres espérances me montreront l'avenir et ses horizons ensoleillés. Et comme il passait devant la petite maison dont nous avons déjà parlé, une voix jeune, fraîche et argentine lui cria « Bonsoir, Philippe !» Il s'arrêta brusquement. « Ah, bonsoir, Adeline » dit-il. « Bonsoir, Monsieur Thériault !» La jeune fille et son père étaient assis devant la maison, à l'ombre, sur un banc de pierre. Monsieur Thériault s'étant levé, Philippe s'avança vers lui. On lui fit une place sur le banc et il s'assit à côté d'Adeline. Le front de la jeune fille se couvrit d'une rougeur subite. Elle était vivement émue. « Nous avons entendu dire que vous alliez quitter Charville ?» interrogea M. Thériault. « Est-ce tout à fait décidé ?»« Oh oui, monsieur, oui. » La jeune fille retint un soupir. Mais un nuage de tristesse se répandit sur son joli visage. « Et qu'en partez-vous ?»«
Demain, monsieur Thériault. »
« Aussitôt que cela ?» s'écria Adeline.
« Ma foi, mon cher Philippe, reprit M. Thériault, vous faites bien. Beaucoup d'autres voudraient vous imiter. Mais ils ont peur, morbleu, on doit être hardi aujourd'hui, il faut cela pour réussir. »«
Ainsi vous ne me blâmez pas, monsieur Thériault. »«
Mon cher, au lieu de vous blâmer, je vous approuve. » Moi, voyez-vous, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on est forcé de faire le métier de son père. Chacun ses instincts, je veux dire sa vocation. Est-ce que nous aurions sans cela des avocats, des prêtres, des littérateurs, des maréchaux de France et des peintres? Peintre, c'est ce que vous serez un jour, j'en suis certain.
Je vous remercie de la bonne opinion que vous avez de moi, monsieur Thériault. Mon cher Philippe, vous avez quelque chose là, sous le front. Il y a longtemps que je l'ai dit et répété aux imbéciles qui vous raillent et vous dénigrent. Laissez dire et marchez crânement. Parce qu'on est né dans un village, on n'est pas condamné à ne le quitter jamais. Ceux qui s'en vont ont leur idée. Attendez, vous verrez. Ah, ça, est-ce que les villes seules ont le privilège de fournir au pays les grands citoyens? Il y a des gens capables et intelligents partout. Comme partout, il y a des ignorants et des sots. Ils me font rire, vraiment, ceux qui prétendent que si la jeunesse continue à émigrer vers les villes, il n'y aura plus assez de bras pour les charrues et les faux, mais morbleu, braves gens, faites que vos fils perdent moins de temps au cabaret et travaillent davantage. Quant à 5 ou 6, ils ont acheté tout un village, je les entends dire. Nous n'avons plus besoin de main-d'œuvre pour cultiver nos terres. Mais pourquoi avez-vous tant acheté? Le main-d'œuvre veut dire propriétaire aussi. Du moment qu'il n'a plus cet espoir chez vous, ben, il s'en va ailleurs. Enfin, mon cher Philippe, vous avez votre idée et vous partez. Ici, vous n'auriez jamais été un cultivateur, et là-bas, vous viendrez un homme de talent. Pour parvenir, vous le savez aussi bien que moi, il faut partout 2 choses principales, l'honnêteté et le travail. » La jeune fille leva sur Philippe ses grands yeux bleus, dans lesquels roulaient 2 larmes. « Oh, quand vous serez à Paris, dit-elle, vous oublierez bien vite vos amis de Charville. »«
Oh, Adeline, vous ne le pensez pas, » protesta le jeune homme.
« Mais vous seriez excusable, vous verrez tant de monde. »
« Oh, il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, » répondit-il. « Par exemple, celui des affections de la première jeunesse. »«
Alors vous penserez quelquefois à mon père et à moi ?»«
Souvent, ma chère Adeline, toujours, » répondit-il vivement.
Il lui prit la main. Elle baissa les yeux.
Bon, quant à ça, je connais Philippe, dit M. Thériault. Je sais bien qu'il se souviendra toujours de ses amis. Adeline prétendait que vous ne viendriez pas nous dire adieu. 20 fois dans la journée, elle m'a répété. Père, Philippe ne viendra pas. Moi, je lui répondais. Ne tourmente pas, notre ami Philippe ne manquera pas avant de partir de venir serrer la main du papa Thériault et embrasser sa petite amie Adeline. C'est que nous aimons beaucoup, mon cher Philippe, dit M. Thériault avec émotion. Ma fille n'a pas oublié qu'autrefois, quand elle était toute petite et allait à l'école, vous la mettiez sur votre dos les jours de mauvais temps pour qu'elle ne mouille pas ses petits pieds dans la boue et les ruisseaux. En ce temps-là, j'étais souvent en voyage et ma chère mignonne avait perdu sa pauvre mère. En me rappelant cela tantôt, elle n'a pas pu retenir ses larmes, le souvenir de sa mère. Ah oui, je venais aussi de perdre la mienne, hein, monsieur Thériault. J'avais déjà 11 ans et ma douleur me faisait mieux comprendre celle des autres. Nous ne vous reverrons peut-être probablement pas demain, reprit monsieur Thériault en prenant la main du jeune homme. Allons, mon cher Philippe, au revoir et bonne chance. Me permettez-vous d'embrasser Adeline, monsieur Thériault? Certainement, sur les 2 joues. Adeline, un peu confuse, mais heureuse, tendit ses 2 joues au jeune homme. Ensuite, elle entra dans la maison et revint aussitôt, tenant à la main un petit bouquet de violettes blanches. « Philippe, dit-elle, voulez-vous accepter ces fleurs que j'ai cueillies tout à l'heure dans notre jardin? Mais de tout mon cœur, Adeline! Vous les emporterez à Paris, ce sera un souvenir de nous. Malheureusement, elles seront vite flétries. N'importe, je les conserverai toujours. » M. Thériault tendit de nouveau sa main au jeune homme et ils se séparèrent. Le lendemain, au petit jour, Philippe Varino s'éloignait de Charville pour aller attendre à 2 lieues de là le passage de la diligence de Paris. Chapitre 5. Corot, l'illustre paysagiste, l'auteur de tant de chefs-d'œuvre, qui se distingue par une grâce inimitable, un sentiment exquis et le charme d'une effusion ravissante. Corot, dont la perte récente est et restera un grand deuil pour les arts, accueillit avec beaucoup de bienveillance et de sympathie Philippe Varino, son nouvel élève. Celui-ci loua une petite chambre meublée tout près de l'atelier du maître et se mit immédiatement et courageusement au travail. Ses progrès furent si rapides que Corot s'en étonna lui-même. Il saisissait avec une intelligence surprenante les plus grandes difficultés de l'art. Au bout de quelques mois, il connaissait toutes les lois de la perspective et savait rendre déjà les plus merveilleux effets de la lumière et des ombres. Il avait aussi la conception extrêmement facile. Sans modèle, en s'inspirant de ses souvenirs, il créait des paysages fantaisistes d'une vérité admirable. On dirait que ce garçon-là a tout vu, tout étonné, et qu'il a sous les yeux la nature tout entière, disait quelquefois le maître à ses amis. C'était vraiment dommage de le laisser dans son village. C'est un flaboureur de moins, mais il sera un jour un grand artiste de plus. Philippe Varino était l'élève favori de Corot. Il devint son compagnon et son ami. Tous les 3 mois, son père lui envoyait régulièrement le trimestre de sa pension. En vivant avec économie, en s'imposant des privations de plaisir, dans son travail, ses 1 200 francs lui suffirent la première année. Mais il ne pouvait pas rester toujours entre 4 murs, un crayon ou des pinceaux dans la main. Sollicité par Corot lui-même, il vit un peu le monde. Il eut quelques camarades qu'il choisit, d'ailleurs avec soin, et fit souvent dans les environs de Paris, si riches et si agréables et pittoresques, de longues et fructueuses excursions. Alors, son modeste budget ne fut plus suffisant.
Il ne pouvait demander à son père de s'imposer le plus lourd sacrifice. Il dut se créer de nouvelles ressources par son travail. Il fit ce que font la plupart des jeunes artistes, pauvres et inconnus. Il vendit ses premiers tableaux à bas prix, un à un, à un de ces marchands brocanteurs, qui, s'ils exploitent le talent de l'artiste, sont pour lui bien souvent aussi comme une seconde providence. La vie de l'artiste a ses épreuves et ses cruelles déceptions. Philippe Varino ne l'ignorait pas, il ne tenait prêt à tout supporter. Sa volonté et son courage ne faiblissaient point. Sa confiance et ses travaux assidus méritaient une récompense. Il l'obtint. Sur 3 tableaux qu'il avait présentés, 2 furent admis à l'exposition annuelle des Beaux-Arts. Il n'avait pas encore 2 années d'études, mais parmi les maîtres du genre, le sien était le premier. Sa joie fut immense. Toutefois, il ne se laissa point éblouir par ce premier triomphe. « C'est le premier pas, lui dit Corot. N'oubliez point que succès oblige. » Il recevait souvent des lettres de son père auxquelles il s'empressait de répondre. Le fermier lui disait « Viens donc nous voir. » À cela, il répondait toujours « Plus tard, quand je serai arrivé à quelque chose. » C'était son idée, son seul orgueil. Il ne voulait reparaître à Charville que le jour où il aurait conquis ce qu'il était venu chercher à Paris, un nom dans les arts. Pourtant, sa pensée s'envolait souvent vers Charville. De la ferme où il revoyait son vieux père et son frère, et elle courait au château de M. Melvoir. Philippe n'avait pas oublié Marguerite. 2 années s'écoulèrent encore. Philippe Varino avait eu 3 tableaux à la dernière exposition, lesquels lui avaient fait décerner à l'unanimité du jury une médaille de première classe. Maintenant, il travaillait avec ardeur pour la prochaine exposition, où il espérait encore faire admettre 3 tableaux. Ses toiles, précédemment admises au salon, avaient été vendues à un prix convenable. Mais les besoins du jeune artiste n'étaient plus les mêmes. Il n'avait pu conserver ses goûts modestes. Malgré lui et forcément, il avait subi les entraînements du monde. La vie parisienne a de nombreuses exigences. Il s'y était soumis. Il avait loué et fait meubler un appartement rue Fontaine-Saint-Georges. La pièce principale et la mieux éclairée était devenue son atelier. Tout l'argent qu'il avait gagné s'était converti en un beau mobilier. Il avait été employé à d'autres dépenses. Philippe Varino était toujours pauvre. Mais l'exposition approchait et il comptait sur de nouvelles œuvres. Il en avait le droit maintenant pour établir ses finances. Malheureusement, 2 mois avant l'exposition, il tomba dangereusement malade. Et ses tableaux n'étaient pas achevés. Au bout de quelques jours, ce qui lui restait d'argent se trouva épuisé. À qui s'adresser? Corot était absent de Paris. Son père lui avait avancé 2 trimestres de sa petite pension. Ses besoins étaient pressants. La situation douloureuse. Le pauvre malade prit une résolution énergique, désespérée. « Il y a 3 tableaux dans mon atelier, » dit-il à sa femme de ménage. « Prenez le plus grand, qui est presque terminé, et portez-le chez M. X, marchand de tableaux, rue Lafitte. Vous accepterez la somme qu'il vous en donnera. Vous lui direz que s'il ne l'a pas déjà vendu lorsque je serai rétabli, je le terminerai. » La femme de ménage alla prendre le tableau. Philippe poussa un profond soupir, en voyant partir cette toile qui contenait tant d'espérance. Quand la femme de ménage entra chez le marchand de tableaux, celui-ci causait avec 2 femmes, dont l'une, toute jeune, pouvait être la fille ou la nièce de l'autre. « Oh, oh !» fit le marchand, en regardant le tableau avec une surprise mêlée d'admiration. « Cette toile n'est pas signée, » continua-t-il. « Mais j'ai pas de peine à deviner le nom de l'auteur. » Il jeta un regard sur les deux femmes. Oh, voilà certainement une belle œuvre, reprit-il. Malheureusement, elle n'est pas achevée. C'est vrai, monsieur, mais M. Marino m'a chargé de vous dire qu'il s'engageait à terminer le tableau aussitôt qu'il serait rétabli, car depuis quelques jours, il est très mal. Au nom de Varino, la plus jeune des deux femmes tressaillit. Quoi ? S'écria le marchand. Monsieur Philippe Varino est malade ? Oui, monsieur, en ce moment, il a besoin d'argent, c'est pour cela. Ah, oh, ce tableau était sans doute destiné à l'exposition. Oui, monsieur. Et il est forcé de le vendre. Mais combien en veut-il? Oh, j'ai l'ordre d'accepter ce que vous me donnerez. Le marchand parut réfléchir. La jeune fille, qui jusque-là était restée immobile, écoutant la conversation avec un vif intérêt, s'approcha du marchand et lui dit à voix basse « Donnez 1 000 francs à cette dame pour le tableau. Si vous le voulez bien, monsieur, c'est moi qui l'achète. » Le marchand sourit, il prit un billet de 1 000 francs dans le tiroir de son bureau et le remit à la femme de ménage, qui se retira immédiatement. « Mais vous veniez me demander des renseignements sur monsieur Philippe Varno, » dit le marchand aux deux femmes. « Le hasard vous a admirablement servi. » « Non, nous désirions savoir seulement s'il était à Paris, » répondit vivement la jeune fille. « Nous sommes adressés à vous pour avoir de ces nouvelles, parce qu'on nous a appris que vous le voyiez quelquefois et que vous aviez souvent vendu de ces tableaux. » « Oui, mais depuis 6 mois, je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, et j'ignorais qu'il fût malade. « Voulez-vous avoir l'obligeance de nous donner son adresse ?» Oh, il demeure actuellement rue Fontaine-Saint-Georges, au numéro 22. Il nous reste maintenant, monsieur, à parler de notre acquisition. C'est juste, car si ce n'était pour vous être agréable, je n'aurais pas gardé le tableau. Oh, monsieur, vous ne seriez pas venu en aide à monsieur Marino? Je ne dis pas cela. Je lui aurais prêté la somme dont il pouvait avoir besoin, en lui renvoyant son tableau. Parce qu'il est inachevé, non ! Mais parce que c'est une œuvre remarquable sur laquelle il comptait. Ce tableau était destiné peut-être à établir d'une façon décisive la réputation de ce jeune et vaillant artiste. Mais il est à vous, mademoiselle, et je vous assure que vous ne l'avez pas acheté trop cher. « Mais je ne sais pas encore le prix, » dit la jeune fille d'une voix émue. « C'est vous-même qui l'avez fixé. Soit, mais il y a votre commission. » J'ai voulu vous faire plaisir, mademoiselle. Ce n'est point une affaire que j'ai faite. Vous faudra-t-il vous envoyer le tableau ? Voici mon nom et mon adresse, répondit la dame âgée en remettant une carte au marchand. Madame Bertrand, 10 rue de Turenne.
Chapitre 6. Après être resté 1 mois étendu sur son lit, Philippe Varino avait pu se lever. Il reprenait peu à peu ses forces. Enfin, au milieu de la 6e semaine, le médecin déclara qu'il pouvait sans danger se remettre au travail, à condition toutefois de ne pas trop se fatiguer. « Monsieur Philippe, j'espère que vous êtes content, » lui dit sa femme de ménage après le départ du docteur. « Vous allez pouvoir reprendre dès aujourd'hui votre palette et vos chers pinceaux. » Le jeune artiste jeta sur la porte de son atelier un regard plein de tristesse. « Bon, à quoi bon » fit-il. « Seriez-vous découragé ?»« Absolument. »« Mais vous avez encore 15 jours devant vous, monsieur Philippe, avec votre habileté. »« Non, vous ne donnerez rien au salon cette année. »« Et vos tableaux presque terminés ?»« Ils resteront où ils sont, » répondit-il. Et un sourire amer crispa ses lèvres. « Cela ne sont rien, » se disait-il. Seul celui que j'ai été forcé de vendre était tout. Il poussa un soupir de regret et son front s'assombrit encore. La personne qui venait tous les jours prendre de mes nouvelles chez la concierge n'est pas revenue ? Demanda-t-il au bout d'un instant. Non, depuis que vous êtes hors de danger, elle n'a plus reparu. C'est étrange, murmura-t-il. Il se leva et se mit à marcher dans sa chambre, en se tenant à distance de la porte de l'atelier, comme s'il eût craint d'avoir la tentation de l'ouvrir.
La femme de ménage, qui l'observait d'un œil impatient, lui dit tout à coup « Monsieur Philippe, entrez donc dans votre atelier. Vous verrez si j'en ai eu soin pendant votre maladie. Tout y est propre, bien rangé. Et si vous êtes content, un petit compliment de votre part me ferait bien plaisir. Oh, s'il ne faut que cela pour votre bonheur, je le veux bien. Eh bien, monsieur Philippe, entrez, » dit-elle en ouvrant la porte. Le jeune homme s'avança sur le seuil. Aussitôt, il jeta un cri de surprise et de joie. Devant lui, sur son chevalet, il voyait la toile qu'il avait crue pour toujours sortie de ses mains. Il se tourna vivement vers la femme de ménage. Elle souriait. « Mais comment se fait-il » balbutia-t-il. « Oh, c'est simple, tout à fait simple, monsieur Philippe. J'avais vendu le tableau par votre ordre et il y a 5 jours, il a été rapporté chez la concierge. Je l'ai pris et remis à sa place pendant votre sommeil. » Mais est-ce monsieur X qui me l'a envoyé? Oh, quant à ça, monsieur Philippe, j'ignore. La personne qui l'a rapporté est la même qui venait tous les jours savoir de vos nouvelles. Mais le vieille dame, avez-vous dit? Oui, qui venait toujours en voiture. L'artiste entra dans l'atelier, s'assit sur un escabeau et resta un quart d'heure absorbé dans ses pensées. Il cherchait à deviner le mystère. Soudain, il se leva, le front rayonnant, une flamme dans le regard. Il prit sa palette sur laquelle il fit tomber des couleurs, saisit ses pinceaux et se plaça devant le chevalet. Derrière lui, la porte de l'atelier se referma doucement. Philippe Varino travaillait. Le lendemain, se sentant assez fort pour sortir, il alla faire une visite au marchand de tableaux de la rue Lafitte. Il l'accabla de quelques questions au sujet du tableau mystérieusement renvoyé chez lui. Ben, je suis de votre avis, répondit monsieur X. C'est très singulier. Je ne comprends pas plus que vous. Le jour même où je vous ai acheté le tableau, j'ai trouvé un amateur et je m'en suis dessaisi avec un tout petit bénéfice. Vous savez le nom de cet amateur? Ma foi, non, il a payé, emporté la toile, je n'ai plus entendu parler. Monsieur X, vous ne me dites pas la vérité. Pourquoi ne pas m'avouer tout de suite qu'on vous a fait promettre de rester muet à mes questions? Admettons que cela soit, monsieur Varno, vous ne ferez pas plus avancer dans vos recherches. Peut-être, mais permettez-moi encore une question. L'amateur qui vous a acheté mon tableau, est-il un homme ou une femme ? Une femme, répondit le marchand en souriant. Jeune ? Bon, je ne me souviens plus. D'ailleurs, elles étaient deux. Le jeune homme sortit de la boutique. Après avoir fait une vingtaine de pas, il s'arrêta tout à coup au milieu du trottoir et se frappa le front. Un rayon de lumière venait de traverser sa pensée. « Marguerite ! » s'écria-t-il. « C'est Marguerite !» Il rentra chez lui en proie à une vive agitation. Mais il se calma subitement, se retrouvant en présence de ses 3 tableaux inachevés. « Allons, se dit-il, il me reste 14 jours, c'est le temps suffisant. Tant que j'aurai un coup de pinceau à donner, je ne mettrai pas les pieds dans la rue. Le succès me paraît certain, je ne veux pas qu'il m'échappe. » Les tableaux furent terminés 2 jours avant le dernier délai accordé aux artistes pour la présentation de leurs ouvrages et admis tous les 3 à l'exposition des Beaux-Arts. Le succès de Philippe Varino fut complet. Les journaux firent de lui les plus grands éloges. Les critiques les plus difficiles le louèrent sans réserve. Il fut déclaré que son principal tableau, La Rosée d'Avril, était un chef-d'œuvre. Le public s'empressa de ratifier le jugement porté par l'unanimité de la presse et il acclama Philippe Varino comme un triomphateur. Plusieurs personnes se présentèrent pour acheter les tableaux exposés. Un Anglais offrit d'abord 10 000 francs de la rosée. Le jeune artiste répondit que ce tableau n'était pas à vendre. Le lendemain, un boyard russe mettait 4 000 roubles d'or, plus de 20 000 francs, devant Philippe pour posséder le tableau. « Mais cette toile ne m'appartient pas, » répondit le jeune homme. « Je l'avais vendue avant qu'elle fût admise au salon. » Afin d'éviter de nouvelles sollicitations de la part des amateurs, Philippe fit attacher au centre du tableau un morceau de carton sur lequel était écrit en grosses lettres le mot « vendu ». Un matin, on lut dans le Moniteur universel le nom de Philippe Varino, qu'un décret venait de nommer « chevalier de la Légion d'honneur ». Chapitre 7. Le jour même où Corot donna l'accolade à son cher élève, en lui attachant lui-même le ruban rouge à la boutonnière, le nouveau décoré reçut un billet ainsi conçu. M. Velleroy prie M. Philippe Varniono de lui faire l'honneur de venir dîner chez lui, 4 rue Trévise, mardi prochain à 6 heures. Cette invitation lui causa une certaine émotion, mais ne le surprit point. Depuis un mois, il l'attendait. Le mardi, à l'heure indiquée, il fit son entrée dans le salon de M. Velleroy, dont Mademoiselle Marguerite faisait les honneurs avec une grâce charmante. L'ancien avoué accourut vers lui et le serra dans ses bras avec de grandes démonstrations de joie. Ensuite, il le prit par la main et l'amenant au milieu du salon. « Mesdames et messieurs, dit-il en s'adressant à la société, j'ai l'honneur de vous présenter M. Philippe Varino, dont tout Paris s'occupe en ce moment, et que je vous ai annoncé pour devant être nous ce soir un de mes convives. M. Varino est notre compatriote, il est né à Charville, où se trouve mon château. » Le jeune homme s'inclina, rougissant, et balbutia quelques paroles, pendant qu'un murmure flatteur s'élevait autour de lui. Certes, le jeune artiste était habitué à recevoir partout un bienveillant accueil, mais en ce moment, il était en quelque sorte l'objet d'une ovation. Il en fut interdit et troublé. « C'est trop d'empressement, pensa-t-il. Une si vive amitié ne peut pas être sincère. » Et cette idée l'attrista profondément et diminua le plaisir qu'il éprouvait à revoir Mademoiselle Velleroy, dont il surprit plusieurs fois, arrêté sur lui, le regard plutôt curieux que sympathique. Après le dîner, lorsqu'on revint au salon, Philippe Varino put enfin saisir l'occasion de s'asseoir à côté de Mademoiselle Velleroy. La jeune fille parut embarrassée et ils restèrent un instant silencieux. Autour d'eux, tout le monde causait. « Monsieur Varino, dit enfin Marguerite, il y a bientôt 4 ans que nous n'avons pas eu le plaisir de vous voir. « C'est vrai, mademoiselle, oui. Ce temps a été bien employé par vous. Vous avez beaucoup travaillé et je comprends qu'il ne vous ait pas été possible de faire un voyage à Charville. Paris est le théâtre de vos succès. Le village n'a sans doute plus aucun attrait pour vous. « Non, j'aime toujours Charville, mademoiselle. J'y suis né, je n'oublie pas que je suis le fils du père Varino. Est-ce que vous irez cette année ?» « Oui, mademoiselle, j'ai rembrassé mon vieux père et mon frère et serré la main de mes amis d'enfance. Alors nous nous reverrons à Charville. Mon père pense pouvoir quitter Paris dans quelques jours. Il a été très sensible à l'honneur que vous lui avez fait en acceptant son invitation. L'honneur est pour moi, mademoiselle. D'ailleurs, j'aurais été bien ingrat si j'eusse oublié l'amitié qu'il m'a témoignée à Charville. Vous avez une bonne mémoire, monsieur Varino. » dit la jeune fille. Celle du cœur, mademoiselle. Vous devez bien m'en vouloir, reprit-elle d'une voix émue, de certaines paroles tombées de mes lèvres et que vous avez entendues. Bon, cela, je l'ai oublié, répondit-il en souriant. Je ne veux plus me souvenir que de l'intérêt que vous m'avez témoigné, du bien que vous m'avez fait. Elle le regarda avec surprise. Le bien que je vous ai fait, reprit-elle, en pâlissant légèrement. Oui, laissez-moi vous remercier et vous exprimer ma vive reconnaissance. Cette fois, ce fut du rouge qui monta aux joues de Mademoiselle Velleroy. Elle se demanda si, en lui parlant ainsi, le jeune homme n'avait pas une intention railleuse. Elle était fort troublée. Grâce à vous, continua-t-il, « ma maladie ne s'est pas prolongée. J'ai recouvré mes forces et j'ai pu terminer mes tableaux avant l'époque fixée. »« Vous avez donc été malade ?» s'écria Marguerite sans réflexion. Le jeune homme tressaillit. « Comment, se dit-il, elle ne sait pas que j'ai été malade ? Mais ce n'est pas elle. Mais qui est-ce donc ? Son visage s'assombrit. « Oui, répondit-il. Au commencement de cette année, j'ai fait une longue maladie. Il paraît même que mes jours ont été en danger. » Et il changea de conversation. Un instant après, une vieille dame ayant appelé Marguerite, la jeune fille se leva pour aller s'asseoir près d'elle. Philippe profita de l'incident pour se disposer à partir. « Quoi, vous nous quittez déjà ?» lui dit M. Villeroy en venant à lui. « Avec beaucoup de regrets, monsieur, mais je suis obligé de rentrer de bonne heure. Vous n'oublierez pas, j'espère, que nous sommes amis et que je serai toujours heureux de vous recevoir. Je pense avoir l'honneur de vous voir à Charville cet été, » répondit le jeune homme. « Venez donc, cher ami, au château, vous serez chez vous. » Philippe mit sa main dans celle que lui tendait M. Villeroy, puis il sortit. « Ainsi, je me suis trompé, » se disait-il en gagnant le boulevard Poissonnière. « Ce n'est pas Marguerite. Mais où chercher maintenant ? Comment trouver ces deux femmes qui ont acheté mon tableau et à qui je devrais peut-être ma fortune ?» Plus que jamais, les deux mystérieuses inconnues occupaient sa pensée tout entière. Il oubliait Mademoiselle Villeroy. Au coin du faubourg Saint-Martre, une petite fille de 10 à 12 ans se plaça tout à coup devant lui. Elle était jolie, mais pâle, maigre et pauvrement vêtue. On lisait la souffrance dans son regard timide et ses traits fatigués. Elle avait à son bras un petit panier d'osier aux bords évasés. C'était une de ces pauvres petites marchandes de fleurs qu'on rencontre à chaque pas dans les promenades publiques dès qu'arrive le mois de mai. « Monsieur, dit-elle d'une voix douce et craintive, achetez-moi un bouquet de violettes ou un joli bouquet de roses. » Philippe l'éloigna doucement et continua son chemin. L'enfant revint se placer près de lui. « Monsieur, dit-elle d'une voix attristée, je vous en prie, prenez-moi une jolie rose, cela vous portera bonheur. » Cette fois, le jeune homme s'arrêta et regarda la petite marchande qui était toute tremblante. Il se sentit ému. « Voyons, fit-il avec bonté, montre-moi tes jolies fleurs. » L'enfant lui présenta son panier en disant « Choisissez ?»« Non, non, dit-il, choisis pour moi et donne-moi le bouquet que tu préfères. » « Alors voilà celui que j'aime le mieux, monsieur. Ce sont des violettes blanches. » Philippe éprouva un saisissement extraordinaire. Il retrouva aussitôt un souvenir perdu. Dans sa pensée, il se revit à Charville, devant la petite maison de M. Thériault, au moment où Adeline lui offrait un bouquet de violettes semblable à celui que présentait la petite marchande. Mais qu'était-il devenu, le bouquet d'Adeline qu'il avait promis de conserver toujours. Il tira un louis de sa poche, le mit dans la main de l'enfant et s'éloigna rapidement en emportant le bouquet de violettes. Il rentra chez lui très agité. Il trouva sur la table de sa chambre à coucher une demi-douzaine de cartes de visite et 2 lettres arrivées dans la soirée. L'une des lettres dont il reconnut facilement l'écriture était de son père. Il l'ouvrit avec empressement. Voici ce que lui écrivait le fermier. « Mon cher fils, je commence aujourd'hui ma lettre, mais je n'ai plus de bons yeux, je l'écris bien lentement, et ce n'est guère que dans 4 ou 5 jours que tu pourras la recevoir. Nous avons appris ton succès par M. le curé et Mme de Sivry, qui lisent les gazettes. Presque tous les jours, ils venaient à la ferme pour nous raconter toutes les belles choses que les gazettes disaient de toi. » Juge combien nous étions heureux. Le jour que ta lettre est arrivée, monsieur le curé lisait aussi dans son journal que tu venais de recevoir la croix. Il est accouru tout de suite pour nous faire voir l'article imprimé. Je lui ai montré ta lettre et en lisant, il s'est mis à pleurer, si bien que ton frère et moi nous l'aurons fait comme lui. Mon cher fils, depuis ce jour-là, nous sommes dans le ravissement. Je suis comme un fou. « Il me semble que je suis rajeuni de 20 ans. Ah, il faut que le bon Dieu m'aime bien, puisqu'il me donne une si grande joie dans ma vieillesse. » Nous avons eu beaucoup de visites. Oh, il est bienvenu 200 personnes à la ferme pour nous parler de toi. Aujourd'hui encore, j'ai été dérangé 3 fois en t'écrivant. À Charville et aux alentours, on ne s'entretient que de toi. Les gens d'ici ne disent plus que tu es un fainéant, un fou. Oui, il y a peut-être bien encore des jaloux, mais ils n'osent pas le faire voir. Par exemple, ceux de notre famille sont heureux, comme ton frère et ton père. Jacques voulait faire le voyage de Paris, exprès pour t'embrasser. Mais je ne suis plus propre à grand-chose. Ton frère est seul aujourd'hui pour tout diriger, pour tout faire. Il a compris qu'il n'était pas possible de s'éloigner de la ferme en ce moment. Surtout, il faut achever le sombre avant la fenaison. Du reste, tu nous promets de venir bientôt à Chaville. Je t'assure que cette partie de ta lettre n'a pas été la moins agréable pour nous. Viens vite, mon cher fils, mon Philippe. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Serait-elle heureuse, ta pauvre mère, si elle vivait encore? J'aspire à ce jour où nous serons réunis. Tu n'es pas l'enfant prodigue, toi. N'importe nous, tu relevons gras à ton retour. Il est à l'étable. Bien qu'il ait plus de 6 semaines, Jacques n'a pas voulu le sevrer pour qu'il soit meilleur. Mais il y a aussi dans la basse-cour 12 de poulets qui t'attendent pour être mangés. Le retour de mon enfant doit être une fête pour toute la famille. Ce jour-là, je veux que nos parents et vos amis mettent à sec la cave du vieux Varino. Bon, maintenant je vais te quitter et te gronder. Comment, Philippe? Tu as été malade, dangereusement malade, puisque tu as failli mourir, et tu ne nous l'as pas fait savoir. Cela n'est pas bien. Tu devais nous appeler. Tout vieux et infirme où je suis, j'aurais trouvé assez de force pour courir près de toi. Tu dis pour un cela dans ta dernière lettre, et si nous le savons, c'est par le grand Claude qu'il a appris hier à Grignan. Monsieur Percier, le notaire, le lui a dit en causant. Bon, le notaire a dû être enseigné par sa sœur, qui habite Paris, ou par la petite Adeline Thériault, qui est revenue à Grignan depuis une huitaine, après avoir été passé quelques mois dans la capitale, chez la sœur de Monsieur Percier. Ah, je crois avoir oublié de te marquer que le père Thériault est mort, en novembre dernier. C'est le notaire de Grignan qui plaçait son argent et faisait toutes ses affaires. Monsieur Percier est aussi le parrain d'Adeline. Il l'a pris chez lui afin de lui servir de père jusqu'au jour où elle trouvera un mari, ce qui ne sera pas difficile, car elle est sage, bien élevée, instruite, jolie et riche. Il me reste juste la place pour te dire que je t'embrasse de tout mon cœur et que nous t'attendons avec impatience. Ton vieux père, Michel Varino. La fin de cette lettre était une révélation pour Philippe. Son père venait de lui dévoiler le mystère qu'il avait si longuement préoccupé. Il se leva brusquement, essuya ses yeux pleins de larmes et entra dans son atelier. Pendant 20 minutes, il fouilla partout, vidant successivement plusieurs cartons remplis de dessins, d'esquisses et de croquis. Enfin, entre 2 paysages crayonnés à Charville, il trouva ce qu'il cherchait, le bouquet de violettes blanches donné par Adeline. Les tiges sèches étaient encore réunies par un fil. Le jeune homme prit délicatement le bouquet fané, le posa sur une feuille de papier blanc et revint dans sa chambre. Il s'assit près de la table, appuya dans ses mains son front brûlant, et resta immobile, livré à ses pensées. Enfin, n'en pouvant plus contenir son émotion, « Oh, oh, oh !» fit-il, et il éclata en sanglots. Chapitre 8. 3 jours plus tard, dans l'après-midi, un cabriolet de louage traversa au grand trot le village de Charville et alla s'arrêter devant la ferme du père Varino. Le vieillard fumait sa pipe, assis sur un chêne écarri, prêt à être livré au sieur de Long. Un jeune homme s'élança lestement hors de la voiture. Le vieux fermier poussa un cri. Sa pipe s'échappa de ses lèvres, tomba sur le pavé et se brisa. Il n'eut que le temps de se lever et d'ouvrir les bras pour recevoir son fils. « Mais je t'ai reconnu tout de suite, mon cher enfant, » dit-il en pleurant de joie. et tremblant d'émotion, ivre de bonheur, il embrassait son cher Philippe et le pressait fortement dans ses bras. « Jacques, Jacques, arrive donc » cria-t-il. « C'est Philippe, c'est ton frère !»
Jacques n'était pas loin, il entendit la voix de son père et accourut aussitôt. Les deux frères tombèrent dans les bras l'un de l'autre.
« Comme c'est bon de voir ces deux fils qui s'embrassent !» murmura le fermier. On entra dans la maison. Sur un signe de Jacques, deux servantes disparurent après avoir fait une révérence au second fils de leur maître. Philippe éprouvait une joie indicible en se retrouvant sous le toit paternel, au milieu de ses souvenirs de jeunesse. Chaque objet qu'il revoyait, occupant la même place, augmentait son ravissement. Sa main tremblante se posait sur les vieux meubles. Il les saluait du regard et leur souriait comme à des amis qu'on est heureux de revoir. La vieille horloge sonna. Il en reconnut le timbre comme le soir, à l'heure de l'Angélus, il devait reconnaître le son des cloches de la vieille église. Ses yeux mouillés de larmes s'arrêtèrent sur un Christ d'ivoire. C'est là, devant cette image, lorsqu'il était enfant, qu'il avait appris à prier à genoux à côté de sa pieuse mère. Il voulut voir toute la maison. Conduit par son frère, qui semblait partager son plaisir, il la visita de la cave au grenier. Il entra dans sa petite chambre. Il la retrouva telle qu'il l'avait laissée, toujours propre, toujours gaie. Quelques-uns de ses premiers dessins étaient restés collés au mur. Le vieux chèvrefeuille formait toujours autour de la fenêtre un encadrement de verdure et de fleurs encore imbes. « Maintenant, dit Jacques, si tu le veux, je te montrerai les écuries. » « Brave Jacques, les écuries, c'était sa gloire à lui. » « Mais voyons les écuries, mon frère !» répondit gaiement Philippe. Dans la première, le jeune peintre ne put retenir un cri d'admiration à la vue de 12 superbes vaches. « Ainsi tu es content !» fit Jacques avec une certaine fierté. « Tu vois que j'ai travaillé et que j'ai pas laissé tomber en ruine ton héritage. Très, tiens, mon cher Jacques, le tien. Le nôtre, si tu veux. » Chaque fois que je les regardais dans le pré, ces belles et bonnes bêtes, je me disais « Ce sont des modèles pour mon frère Philippe. À elles seules, 12, elles donnent chaque jour une tonneau de lait. Et pour qu'elles soient bien soignées, j'ai pris une deuxième servante. Moi, je m'occupe de mes chevaux. Regarde, voilà les deux vieilles mères. « Oh, je les reconnais, » dit Philippe, « Rosette et Noirotte. « Oh, mais tu as bonne mémoire, » reprit Jacques. « Quand tu es parti, elles étaient quatre. J'en ai vendu deux, ce qui n'empêche pas qu'elles sont 12 aujourd'hui, sans compter 4 belles génisses qui viendront prendre la place de 4 de celles-ci quand nous les aurons vendues à la veille de l'hiver. C'est en vendant un peu chaque année que le père a pu acheter depuis 4 ans 5 hectares de bonnes prairies. Et cela nous donne du fourrage pour nous permettre de nourrir maintenant 40 bêtes. Le fumier ne manquera pas chez nous. Les terres mieux amendées produiront davantage en ne demandant pas plus de travail. Autrefois, nous avions 50 moutons. Il y a 2 ans, j'ai dû prendre un berger. Tu verras le troupeau ce soir quand tu reviendras des champs. Plus de 200 têtes de magnifiques brebis mérinos. Le père a fait un marché avec un filateur du département qui vient enlever les laines le lendemain de la tonte. Outre le produit des laines et de la vente des moutons gras, le troupeau nous sert encore à engraisser nos prés et nos terres, car je le fais parquer souvent. Enfin, grâce à ces améliorations, d'ici à quelques années, la ferme aura triplé de valeur. Seulement, il ne faut pas de mortalité. Mais depuis 3 ans que j'ai fait le pavage des écuries, nous n'avons pas eu une perte sérieuse. Comme tu le vois, je vais agrandir les ouvertures. Il faut de l'air aux animaux, de l'air et une litière abondante et toujours fraîche. Voilà leur santé. Philippe écoutait ces explications avec le plus vif intérêt. Vois-tu, continua Jacques, c'est pour toi que j'ai travaillé. Ma pensée ne te quittait pas. Et chaque fois que je réussissais à quelque chose, je me disais,
Oh, c'est mon frère qui me porte bonheur.
Oh, Jacques, excellent cœur, dit le peintre en serrant son frère dans ses bras. Ils étaient sortis des écuries et marchaient dans une des allées du jardin.
Les artistes sont longtemps pauvres, reprit Jacques. Il y en a même, dit-on, qu'ils sont toujours.
Quoi qu'il arrive, tu ne connaîtras pas la misère.
Je suis fort, j'ai de bons bras, et tu as ici une petite fortune. Bientôt tu te marieras.
Je pensais à cela. Pour ce jour-là, à ton intention, j'ai placé 6 000 francs qui sont à moi.
Le père le sait.
Il croit que j'aime l'argent, que je suis avare. Il ignore l'usage que j'en veux faire.
Cette fois, Philippe ne put retenir ses larmes.
Certes, il n'avait jamais douté de la profonde amitié de son frère. Mais il ne s'attendait pas à trouver en lui tant de sollicitude, une si complète abnégation.
« Jacques, dit-il en souriant, puisque tu viens de parler de mon mariage, je te ferai remarquer que tu es mon aîné et que tu dois me montrer l'exemple. »«
Oh, moi, dit Jacques, me marierai jamais. »«
Jamais, pourquoi cela ?»«
Bon, c'est rien. Probablement parce que la pensée ne m'en est jamais venue. »
Mais cette bonne pensée te viendra, mon frère. Tu n'as pas encore 32 ans.
Là, je ne fais rien à cela, quand l'idée n'y est pas.
Écoute, Philippe. Entouré d'aisance la vieillesse de notre vieux père. Enrichir notre maison pour toi et les petits-neveux que j'aurai un jour. Voilà mon rêve. Après cela, que me faut-il pour être heureux? Je ne ressemble pas à tout le monde, je le sais. Que veux-tu? Je suis fait ainsi. Voir mes écuries pleines de bêtes bien portantes, avoir, quand je passe dans nos prés, de l'herbe jusqu'au-dessus des genoux, regarder pousser nos blés, et quand ils sont mûrs et plus hauts que moi, les abattre à grands coups de faux. C'est ça pour moi, le bonheur.
Oh, je ne suis pas convaincu, répliqua le peintre.
Tu te verras rire un jour, parce que c'est une nécessité, un devoir de la vie.
À ce moment, le père Varino appela ses fils.
Le veau gras fut tué le jour même.
Le lendemain, qui était un dimanche, il y eut à la ferme un grand dîner de 50 couverts. Tous les parents et quelques amis choisis avaient été conviés à ce festin donné par le père Varino pour fêter le retour de son fils à Charville. On but beaucoup, comme on boit au village, sans mettre de l'eau dans son vin. Cependant, grâce à la présence du bon vieux curé de Charville, que tout le monde respectait et aimait, les choses se passèrent d'une façon très convenable. Il y eut seulement un excès de gaieté. Le lundi matin, Philippe eut avec son père un long entretien. Quand le vieillard sortit de sa chambre, il était habillé comme les jours de grande fête. Il appela un garçon de ferme et lui donna l'ordre d'atteler à la carriole le meilleur cheval de son écurie.
« Mais où donc allez-vous, mon père ?» lui demanda Jacques.
« Tu es bien curieux, lui répondit-il en souriant. Je vais faire une visite au notaire de Grignan.
Ah, un placement à faire. Ton frère t'expliquera ça tantôt. »
Et au moment du départ du fermier, Philippe lui remit une petite boîte en disant
« Quand vous aurez causé avec M. Percier, mon père, vous le prierez de vouloir bien remettre ceci à Mademoiselle Thériault. »
« Un cadeau ? » fit le vieillard avec surprise. « Ne t'as-tu pas un peu trop ?» Philippe ouvrit la boîte en souriant et montra à son père des violettes blanches fanées. M. Velleroy et sa fille étaient depuis 8 jours à Charville. Le neveu de M. Velleroy, le cousin que nous connaissons, les avait accompagnés. Un matin, après le déjeuner, on parla de Philippe Varino.
« Depuis la visite de politesse qu'il nous a faite le lendemain de notre arrivée, nous n'avons pas revu, dit M. Velleroy. C'est singulier. Ce monsieur a fait assez rapidement son chemin, reprit le cousin d'un air ennuyé.
Oui, répliqua vivement Marguerite. Et celui que vous appeliez autrefois un héros d'idylle est devenu un homme des plus distingués et un artiste d'un grand mérite.
« Chevalier de la Légion d'honneur à 26 ans, ajouta M. Velleroy.
« Oh, qu'est-ce que cela prouve ? dit le jeune homme avec humeur. Ben, cela prouve que M. Philippe Marino a un grand talent et qu'il est aujourd'hui déjà une des illustrations de notre pays.
Bon, aujourd'hui on décore tout le monde.
Mais vous n'êtes pas encore mon cousin.
Moi, je ne suis pas un barbouilleur de toile, un faiseur de paysages, comme l'illustre Varino de Charville.
C'est vrai, mon cousin, répliqua la jeune fille d'un ton moqueur. Vous n'avez pas besoin de travailler, vous. Vos 15 000 francs de rente vous donnent le droit d'être un inutile.
Le cousin se mordit les lèvres.
En vérité, ma chère cousine, reprit-il, je ne comprends pas votre enthousiasme pour M. Varino, et moins encore vos paroles désobligeantes. Est-ce que le némorin d'autrefois a trouvé son Estelle?
Le visage de Mademoiselle Velleroy devint pourpre. Elle se leva et répondit d'un ton sec.
« Si M. Varino me demandait en mariage, je serais fière de l'accepter pour mari. »«
Oh, M. Philippe Varino est un jeune homme plein d'avenir, » dit M. Velleroy. « Je serais heureux, moi, de l'avoir pour gendre. »
À ce moment, un domestique entra dans le salon et remit une lettre à son maître. M. Velleroy l'ouvrit aussitôt et, après avoir lu, il attendit silencieusement à sa fille. Voici ce qu'elle contenait. Monsieur Michel Varino, cultivateur à Charville, a l'honneur de vous faire part du mariage de son fils, Monsieur Philippe Varino, artiste peintre, chevalier de la Légion d'honneur, avec Mademoiselle Adeline Thériault.